liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici, les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste et plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail, paroledecitoyens@frequence7.net, tout en minuscules, singuliers et tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme il se doit, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, Edwige fera le point sur les luttes, les actions, conférences passées et à venir sur notre territoire. En plat de résistance, comme annoncé lors des missions précédentes, nous parlerons du foncier, de l'artificialisation des sols et du PLUI. Pour des raisons de disponibilité de nos invités, cette partie de l'émission a été enregistrée auparavant. Et nous terminerons le plus légèrement possible en partageant avec vous la recette du jour. Surtout prévoyez papier et crayon. Bon appétit!
Alors Dominique, pour commencer, on va parler des luttes et, essentiellement de la mobilisation du 8 mars. Il y a un appel général du collectif féministe du 8 mars d'Aubenas. Donc on espère que vous venez nombreuses et nombreux. Et donc je vous lis un petit peu cet appel. Face aux attaques du gouvernement, des droites et des extrêmes droites, partout les meufs résistent. Le 8 mars, Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Nous appelons à la grève du travail, des tâches domestiques, de la consommation. Parce que seules nos voix, nos cris comptent. Donc un rendez-vous est donné à 15h30 à l'Agora d'Aubenas. Le départ en manif est à 16h. Alors de plus, les centres sociaux d'Aubenas organisent différents événements autour du 8 mars qui se dérouleront au centre social ASA. À 18h30, une conférence gesticulée, l'arnaque de la princesse, du collectif Régalons-nous, réservation fortement conseillée. À 21h30, cata ok, c'est la cata mais c'est ok. Programme complet et réservation auprès de l'ASA. Les syndicats CGT-FSU et Sud Solidaire appel en Ardèche à la manifestation à l'Agora à 15h40. Voilà. La manifestation aura aussi lieu à Montélimar avec les Rosiers à 18h30 devant le théâtre. Le jeudi 7 mars 2024, à 18h30 aux archives départementales de Privas, il y a un spectacle et un débat. Quelque part dans les ronces, mémoire d'une sage-femme d'Ardèche. Et enfin, on finit sur la bonne nouvelle de ce 8 mars, c'est la constitutionnalisation de l'IVG. Donc Dominique, tu veux nous raconter, avant qu'on passe la chanson, la musique qui est prévue, tu veux nous raconter un petit truc à ce sujet?
Bah, disons que c'est la suite des mobilisations depuis les années 70 pour la libéralisation de l'avortement, pour le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Et la chanson qu'on vous a choisie, elle date de cette époque-là. Donc c'était la chanson qu'il y avait dans le film « L'une chante, l'autre pas », qui a joué un rôle majeur à l'époque dans les mobilisations pour l'avortement et qui passait dans tous les cinémas, en France, partout. Pas dans les cinémas chics, hein, là c'était interdit. Mais dans les petites salles, partout on passait, il y avait un monde fou qui venait voir ce film. Et pour les personnes de ma génération, hommes et femmes, qui nous sommes mobilisés à l'époque, ça rappelle toute cette période de combat. C'est pas une magouille politique ce qui s'est passé l'autre jour au Congrès, c'est bien le résultat de toutes les luttes depuis des décennies.
Alors on écoute ce court extrait, Sylvain, s'il te plaît.
40 ans ou 16, c'est le même lot, le même malaise, Amsterdam sur eau, tulipes et vélo. Je m'en souviendrai.
Et maintenant, Dominique, on a appris hier, il y a quelques jours, la fermeture possible de l'EHPAD à Entraigues.
Oui, alors là, c'est la cata qui est annoncée. La chaîne qui est propriétaire de l'EHPAD d'Entraigues et du centre, il y a aussi un centre qui accueille des personnes adultes handicapées. Donc la chaîne qui est propriétaire de ça a été placée en liquidation judiciaire. Ce qui veut dire fermeture annoncée pour ces deux établissements, avec licenciement des personnels, bien sûr, avec on ne sait pas quoi faire des personnes qui y sont hébergées actuellement. Les repreneurs éventuels sont à trouver avant le 21 mars, extrêmement court, et pour l'instant, l'activité est censée s'arrêter au 15 avril. Donc on a appris ça lundi, hein, donc c'est vraiment très court, et on ne sait pas encore ce qui va se passer. Il va certainement se passer beaucoup de choses sur notre territoire autour de ça rapidement.
Il va falloir se mobiliser, on ne peut pas laisser les choses comme ça.
Évidemment, là c'est sûr.
Et à présent, ça va être le moment du plat de résistance.
Oui, on va avoir le plat de résistance. Et pour vous y introduire, on a une petite chanson de Françoise Hardy.
Là où vivaient des arbres maintenant, la ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant, n'existent plus.
Voilà, donc ça parle de l'évolution des paysages, de l'urbanisation. Voilà, l'émission enregistrée, nous allons vous la passer tout de suite, avec, grâce à la présence des animateurs, des citoyens mobilisés dans le CADA. Alors, comme on vous l'avait annoncé, on accueille aujourd'hui des citoyens avec qui on va creuser un petit peu la question du PLUI, dont on vous a parlé deux fois déjà, mais plus longuement il y a un mois. Alors on a aujourd'hui avec nous Théo et Andrea qui vont nous expliquer, ce sont deux citoyens qui se sont motivés et qui agissent autour de ce sujet de l'aménagement foncier sur notre territoire. Et donc ils vont nous expliquer comment ils ont fait ça et en quoi ça consiste. D'abord ils vont peut-être se présenter et puis présenter leur structure qui est un collectif qu'ils ont créé.
Moi je m'appelle Théo, je suis habitant du territoire du bassin d'Aubenas.
Bonjour, merci. Et oui, moi aussi, j'habite sur le bassin d'Aubenas. J'y vis, j'y travaille, voilà.
Oui, donc notre problématique, c'est la sauvegarde, la préservation du foncier agricole sur le bassin d'Aubenas dans le cadre d'une autonomie agri-alimentaire du territoire. Dans le collectif, dans le CABA, collectif agri-alimentaire du bassin d'Aubenas, a été créé à l'hiver 2022-2023 suite aux réunions publiques qui a eu organisées par la CCBA sur le PLUI où on s'alarmait de l'augmentation des permis de construire qu'on voyait sur notre territoire alors que tout ça se passait dans un cadre de l'abordation de PLUI où peut-être les choses vont aller changer. Notre chose qu'on a décidé de faire, c'est d'identifier ces terrains qu'on considérait comme importants pour l'agriculture et pour la production d'aliments pour notre territoire.
Alors c'est déjà original comme façon de démarrer. En fait, vous vous êtes rencontrés par hasard dans des réunions et de là, vous avez remarqué, parce que vous étiez dans des réunions, parce que vous discutiez, vous avez pris la parole, d'autres ont pris la parole, que vous étiez préoccupés par la même chose. Et vous vous êtes retrouvés ensuite et vous êtes dit, tiens, on va créer un collectif, on va creuser le dossier et y réfléchir ensemble. Donc, c'est ce que vous avez fait. Si j'ai bien compris, donc c'est l'autonomie agri-alimentaire. Donc, ça veut dire à la fois agriculture pour donc des gens qui travaillent et qui travaillent pourquoi ? Pour produire des aliments pour les habitants du territoire. Donc c'est d'actualité, on va dire. On a bien vu dans les mois et les semaines passées que c'était bien d'actualité. Alors ce collectif, qu'est-ce qu'il a fait déjà jusqu'à présent ? Je crois que vous avez pas mal travaillé. Alors dites-nous un peu ce que vous avez fait.
Effectivement, on a déjà bien œuvré. On a commencé... Tu le rappelais, on s'est rencontrés, ça a été assez agréable de se rendre compte que plusieurs citoyens, citoyennes pensaient les mêmes choses vis-à-vis de la préservation des terres agricoles sur le bassin d'Aubenas. Donc déjà, on s'est senti un peu moins seul. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à travailler très concrètement sur les terres en danger sur le bassin d'Aubenas. On a réalisé un catalogue des terres en danger qu'on peut consulter sur le site du CABA. On a aussi présenté notre action et nos actions à la presse locale. On s'est également présenté auprès de plusieurs élus du territoire avec qui on a échangé sur cette thématique. Et on a dernièrement, dans le cadre du festival du film paysan qui est organisé par la Confédération paysanne, on a pu participer au débat qui suivait le film Douce France. Donc il y avait un débat qui était organisé avec les lycéens de l'établissement Olivier de Serres et aussi avec grand public le soir, un soir.
D'accord. Et donc, en faisant ce catalogue, ça vous a donné une vision de ce qu'était la réalité des choses sur notre territoire du bassin d'Aubenas. Quel constat vous faites? Qu'est-ce que vous dites justement par rapport à ces terres que vous dites en danger? Qu'est-ce que c'est pour vous d'avoir des terres en danger? Et est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Enfin, quelle est la situation?
Alors, des terres en danger, enfin, elles sont de deux sortes aujourd'hui. On a identifié, comme Andréa l'a dit, dans des terres qui étaient dans les PLU communaux à urbaniser de manière ouverte ou fermée. Donc, nous, on s'est vraiment concentré sur ces terres ouvertes, dont du jour au lendemain, où il y a la possibilité qu'un permis de construire soit déposé et qu'une construction soit réalisée dans les années à venir. Enfin, on part du constat que, vraiment, sur le bassin d'Aubenas et sur les communes environnantes, il y a eu, lors de la dernière décennie, beaucoup de consommation de ces espaces et que l'agriculture, l'activité agricole en était fortement contrainte. C'est pour ça qu'on a décidé vraiment d'identifier ces parcelles qui avaient un potentiel parce que elles étaient mécanisables, elles avaient un bon potentiel agronomique, elles étaient irriguées et elles s'intégraient dans un espace agricole beaucoup plus large.
En fait, vous avez constaté que autour d'Aubenas, le bassin d'Aubenas, son bassin de vie, on va dire, il y avait de plus en plus de bâtiments et de moins en moins d'agriculteurs et d'agriculture. Alors c'est vrai que les gens qui habitent ici le voient tous les jours. Moi, je suis arrivée à Aubenas en 95. Toute la plaine en bas, c'était des arbres fruitiers de toutes sortes. Quand on allait sur vaisseau, c'était des arbres fruitiers, etc. Bon, maintenant, à part de la vigne et du béton, en tant qu'habitant, on a l'impression que ça a tourné comme ça. Et vous me dites, en regardant la réalité des choses, en termes d'hectares, en termes de tout ça, vous confirmez que cette impression est réelle. Alors,
oui, on confirme.
Oui,
on confirme et c'est alertant. C'est alertant parce que moins on aura la capacité de produire localement, plus on va être vulnérable. Oui, on va être vulnérable par rapport à plein de crises qui sont soit déjà actuelles, soit qui vont arriver. Je pense notamment à la pénurie en eau, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, on va dire, tous les ans, ces dernières années en Ardèche. Aussi, ça peut être... Par exemple, la pénurie de carburant, si on a moins de carburant ou si le carburant coûte très très cher, eh bien les camions qui transportent la nourriture, ça va être compliqué. Donc nous, on essaie aussi d'alerter en disant il y a un intérêt, il y a un très fort enjeu pour la population, pour les gens du territoire, de faire de attention, de préserver ces terres agricoles parce que c'est ce qui nous permet de nous nourrir, si ce n'est ce qui va nous permettre de nous nourrir demain.
Et en fait, pour vous, aujourd'hui, la situation est grave sur notre territoire. Vous avez le sentiment, au vu de tout ce que vous avez pu constater, qu'on risque d'atteindre un point de non-retour très difficile à contrebalancer, parce que vous dites, comme bien d'autres, qu'une terre artificialisée, avant de pouvoir la remettre en culture, il faut des décennies et des décennies. Ils en parlaient d'ailleurs récemment dans les médias nationaux. Donc effectivement, plus on s'y prend tôt à bien veiller à ne pas bétonner, plus on a des chances de pouvoir réussir une transition de production plus positive pour nous. Et vous avez raison de rappeler qu'on est vulnérable. On est vulnérable parce que, on le voit bien, les rayons de supermarché, ils étaient vides parce qu'il y a eu quelques jours de grève et d'occupation des autoroutes, quoi. On est quand même très vulnérable et on n'est pas à l'abri d'une panne généralisée d'électricité, d'inondations qui nous coupent, de ponts emportés sur le Rhône, enfin je ne sais quoi, et qui font que plus on peut se rapprocher, pas d'une autonomie, c'est pas le sujet, mais d'être quand même, d'avoir, de produire des choses pour nous quand même un peu, plus c'est intéressant pour les citoyens que nous sommes. Donc, à partir de ce constat, vous vous dites, on fait un catalogue que vous mettez à jour régulièrement, vous surveillez ce qui se passe avec ces terres que vous avez identifiées, c'est ça? Vous regardez un peu ce qu'elles deviennent?
Oui, on les a hiérarchisées. On considère qu'il y a, enfin, toute terre a une vocation, peut avoir une vocation, une destination agricole. Mais on a considéré, voilà, dans le catalogue qu'on a fait, qu'il y avait des terres parce qu'elles étaient irrigables, parce qu'elles avaient un bon potentiel, parce qu'elles s'intégraient dans un espace beaucoup plus large, qu'elles avaient vraiment de l'importance pour le territoire, pour que derrière, elles puissent rentrer dans un système alimentaire local. Donc oui, on les connaît, on y passe régulièrement parce qu'elles sont à proximité de voies de communication, aussi parce que c'est notre sujet, on va y visiter, enfin on passe à proximité pour vérifier qu'il n'y ait pas de permis de construire. Après, l'enjeu, c'est que ça se passe bien en amont que le moment où on voit un permis de construire sur le terrain. C'est pour ça que une de nos actions, ça a été d'interpeller les élus dans le cadre de l'élaboration de ce PLUI pour qu'ils puissent stopper la délivrance des permis de construire le temps que ce document se fasse. Donc on demande aux élus de sursoir à statuer sur vraiment les permis qui se font sur ces terrains à fort potentiel. Donc sursoir à statuer, c'est pas délivrer ou s'opposer, c'est repousser la délivrance du permis à dans 18 mois. Donc voilà, ça laisse le temps aux documents d'urbanisme d'être approuvés et d'avoir une cohérence dans l'organisation du territoire et dans les attentes du ZAN.
En fait, ce que vous souhaitez, en tout cas quand vous l'avez fait, ce catalogue, vous l'avez fait pour fournir aux élus qui sont en train d'élaborer le PLUI, qu'il faudra que, sur lequel on donne notre avis d'une façon ou d'une autre, et qui vont le valider, leur fournir un document et des documents fiables d'état des lieux de la situation sur le territoire. Et ce que vous leur demandez aux uns et aux autres dans chaque commune, c'est qu'ils attendent que la réflexion commune ait eu lieu sur le devenir de ces terrains avant de donner des permis par-ci, des permis par-ça, sans réflexion plus approfondie. Je crois que vous avez un slogan, c'est des patates ou du béton, c'est ça? Ou plutôt que du béton?
Alors, c'est plutôt, voilà, c'est on préfère des patates que du béton, voilà. Effectivement. Et justement, ce catalogue, alors oui, il nous a servi de base de dialogue avec les élus, mais il est aussi là pour montrer aux gens que même si on n'a pas l'air d'être un territoire très productif ou du moins sorti de la châtaigne et le vin, on se demande peut-être parfois, ou bien la chèvre, je ne sais pas, on se demande ce que peut produire le territoire, et nous on est venu aussi regarder un peu à la loupe. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des parcelles avec un fort potentiel et que ce potentiel-là, il est souvent méconnu. Alors, nous, voilà, nous, ce sujet, on le vit. mais on pense aussi qu'il y a plein d'habitants et d'habitantes sur le territoire qui en sont témoins tous les jours. Et finalement, voilà, là, Théo disait, on demande aux élus d'utiliser les outils qu'ils ont en leur possession, donc le sursis à statuer. Mais on pense aussi que les habitants et les habitantes du territoire peuvent aussi interpeller leurs élus pour demander ces choses-là et pour dire c'est un sujet important pour nous.
Oui, c'est important. Un des chiffres que vous m'avez donné, enfin des inquiétudes qu'on peut tous avoir, par exemple, si on traîne trop à faire le PLUI, vous m'expliquez que ZAN prévoit une baisse de 50% des constructions dans le PLUI par rapport à ce qui se faisait avant au niveau PLU cumulé, j'imagine. Donc, dans la précédente période, il y a eu 210 hectares consommés, donc 210 hectares de terres agricoles, exploitables, machin, etc. Donc, la nouvelle période ne peut consommer que 105 hectares. Or, le PLUI n'est toujours pas signé et les constructions continuent. La consommation de terre continue sous couvert des PLU. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où, loin de ce que vous proposez, qui est de surseoir à statuer, c'est-à-dire reporter les décisions locales des PLU, on est presque en situation inverse, où les élus ont tendance à reporter les décisions du PLU et sa mise en œuvre, pour prendre le temps de continuer à utiliser ces hectares. Et quand le PLU, le risque, c'est que lorsque le PLU sera décidé, il n'y aura plus d'hectares à utiliser. J'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu la tendance, on a l'impression, localement. D'où l'importance que les citoyens s'en préoccupent et expriment leur point de vue. Alors, il y a eu des réunions publiques sur la première partie d'élaboration du PLUI. Là, visiblement, il ne se passe plus rien. On est en attente. Ils sont censés avancer bientôt, nous présenter des choses quand même. Ça a été un petit peu reporté. Voilà, on est en attente. On n'a plus aucune information. On espère que ça va changer, que les élus de la CCPA vont à nouveau se tourner vers nous, citoyens, pour nous dire où ils en sont de leur réflexion et ce qu'ils envisagent. Est-ce que on peut, par exemple, donner aux auditeurs de Fréquence 7, votre site internet peut-être, parce que je crois que c'est par ce biais qu'ils pourront récupérer le document, là, le catalogue.
Oui, c'est en tapant sur une plateforme de recherche KABA07. Vous tomberez sur notre site internet avec des éléments de diagnostic, le catalogue. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi?
Des newsletters également, parce
qui fait écho, des newsletters qui peuvent faire écho à des situations qui se passent localement, concrètes. On pense à, sur la plaine d'Aubenas, un projet d'aménagement d'une vingtaine de logements en pleine zone agricole à proximité d'un agriculteur qui va être directement impacté. Donc on voit que l'urbanisme peut aussi avoir des conséquences sur l'agriculture de manière indirecte. Vous trouverez aussi notre tribune, enfin notre pétition, qui atteint aujourd'hui 400 signatures. Notre objectif prochain est 500, qu'on espérera atteindre.
Alors, je crois aussi, alors je vais redire quand même, parce que KABA, c'est C2ABA 07. Hein.
Oui.
C'est pas le KABA des courses. Quoi. Et voilà, et la pétition, c'est important aussi, effectivement, de la signer, parce que vous pourrez ainsi la transmettre aux élus le moment venu. Est-ce que par ce site internet, les gens peuvent vous contacter?
Oui, il y a cette possibilité-là, oui, effectivement, d'autant qu'on est un collectif ouvert à toutes et à tous, pour les personnes voilà qui ont envie de s'emparer de ce sujet, qui sont intéressées par ce sujet. Alors voilà, déjà il y aura des infos à glaner sur le site et sur la page Facebook, mais n'hésitez pas à nous contacter.
Voilà, après je rappelle, hein, ce sont des citoyens qui font ça en plus de leur vie professionnelle et familiale, etc. Donc voilà, c'est pas une association, mais il y a de la compétence, il y a de la connaissance et il y a du savoir qui peut être utile à tous. Donc n'hésitez pas à vous mettre en lien avec le site du KABA. Et on remercie beaucoup Andrea et Théo d'être venus. Simplement, est-ce que vous pensez que j'oublie quelque chose?
Non.
Après,
voilà, ne pas hésiter à s'intéresser à ce sujet du PLUI en tant que citoyen, parce que c'est vraiment l'avenir du territoire pour les 10-15 années à venir.
Ouais.
Comment il va être organisé, alors, il y a l'agriculture, mais aussi les déplacements, la production de logements, le cadre de vie. On peut aussi partir sur cet angle-là. L'agriculture, ça fait partie de notre environnement direct. On a tous envie qu'il soit préservé. Voilà, on est tous artichauts, on a envie de vivre sur notre territoire et que ça soit pas un territoire qui soit banalisé par
qui ressemble à la zone de voilà. Lyon. On a pas envie de ressembler à Fézin, c'est ça que vous voulez dire.
Exactement.
Voilà, bon, intéressez-vous et n'hésitez pas.
Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Au revoir.
Autour, il y avait le silence. Les guêpes et les nids des oiseaux.
Alors Dominique, tu peux nous parler à présent de la mobilisation de samedi?
Alors, comme tous les samedis, passés et à venir, à 11h, on se retrouve à Aubenas, la place de l'Agora, pour réclamer le cessez-le-feu en Palestine. Ça sera à nouveau le cas samedi prochain, et notamment samedi prochain, c'est un appel national à une mobilisation particulière, plus intense que d'habitude, si on peut. parce que la situation ne fait que se dégrader, ça vous l'avez entendu également. Et je voudrais qu'on insiste sur une chose, sur notre rubrique culinaire. Notre rubrique culinaire qui est, depuis le début, solidaire de la Palestine, solidaire de la culture palestinienne. Et je crois que c'est quelque chose qui a été très apprécié par des Palestiniens, notamment, qu'on pense, alors qu'ils vivent des situations très graves, qu'on pense à leur culture dans ces moments-là.
Et c'est pour ça qu'on va écouter un extrait de Fayrouz, Saoulouni El Nas. Alors, la recette aujourd'hui, c'est le hummus. Donc, c'est une recette palestinienne, mais qui est aussi libano-syro-palestinienne, on pourrait dire. Donc, il vous faut, comme ingrédient, si vous avez de quoi noter, des pois chiches secs ou en boîte, il faut qu'ils soient cuits, du bicarbonate de soude, du sel, de l'ail, du jus de citron à peu près un ou deux citrons, ça doit suffire. De la crème de sésame, le tahiné, 150 grammes. Du persil, une poignée de persil, du paprika, de l'huile d'olive bio et du pain libanais. Donc, il suffit donc de faire cuire les pois chiches. Vous réservez d'abord quelques grains pour la garniture. Ensuite, vous faites une purée à l'aide d'un mixeur girafe, par exemple. Et une fois que la purée est, que vous obtenez une texture très fine, là vous pressez de l'ail et vous mettez du sel dans le mélange et vous allez déjà avoir un résultat très parfumé. Ensuite vous ajoutez la crème de sésame et vous mélangez à nouveau. Et enfin vous mettez le citron, vous rectifiez l'assaisonnement. S'il faut, vous rajoutez un petit peu d'eau, mais en général, le citron suffit. Vous disposez sur un plat ou dans des assiettes à mezzé. Et vous sculptez une sorte de rigole pour verser un filet d'huile d'olive. Et vous décorez avec les grains de pois chiches que vous avez réservés au début de la recette et le persil que vous avez coupé finement. Vous saupoudrez de paprika. Et là, vous pouvez déguster avec le pain libanais. Bon appétit!
Bon appétit! Et puis, on va peut-être vous quitter maintenant en vous rappelant que le mail pour les réactions, les informations, les suggestions, c'est paroledecitoyens@frequence7.net. Au revoir!
Au revoir à tous et à très bientôt! Merci!
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.